Vous êtes toujours à l'écoute de RFI, les 15h à Paris, 13h en temps universel, 7h30 à Port-au-Prince. Et c'est la dernière partie de RFI Midi consacrée à l'actualité du continent américain. Nous allons nous pencher sur cette nouvelle démission d'un dirigeant d'université aux États-Unis. La présidente de Columbia à New York a décidé de renoncer à ses fonctions, invoquant la période de crise du printemps au moment des manifestations pro-palestiniennes. Dans un instant, nous serons en direct d'Haïti avec Franz Duval du Nouvelliste pour évoquer la cérémonie d'investiture du président de la République dominicaine. Et puis, nous ferons le point sur la situation à Porto Rico. L'île a été balayée par la tempête tropicale Ernesto, qui est devenue ce mercredi un ouragan de catégorie 1. De nombreux foyers sont toujours privés d'électricité. Et comme chaque jour, le journal des Outre-mer avec nos confrères d'Outre-mer La Première. Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour.
Et après plus d'un mois d'arrêt, les navettes maritimes sont de retour entre le nord et le sud de l'immense baie de Fort-de-France.
Et oui, Fort-de-France, les trois îlets par bateau, c'est tout droit et ça va plus vite. Vous entendrez le reportage tout à l'heure de nos confrères de La Première Martinique sur les commerçants des trois îlets qui sont heureux.
On retrouve tout à l'heure, Benoît, merci. Et tout d'abord, le journal avec Sophie Pouzrat. Bonjour Sophie.
Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous. C'est à la une. Aux États-Unis, c'est le troisième dirigeant d'une université historique à démissionner dans le cadre des répercussions de la guerre à Gaza. Quatre mois après les manifestations pro-palestiniennes sur son campus, la présidente de l'université de Columbia, Minouch Shafik, quitte son poste. Une décision qui tombe à moins de trois semaines du début du semestre d'automne. Bonjour Abla Jounaïdi.
Bonjour.
Dans ses lettres d'adieu aux étudiants et aux employés, l'universitaire évoque la trop grande pression qu'elle a eu à subir ces derniers mois.
Oui, c'est la troisième présidente d'université de l'Ivy League. Ces huit grands campus du nord-est des États-Unis à être emportés par la tourmente, vous l'avez dit, après Elizabeth McGill du campus de Penn et Claudine Gay de Harvard, accusées à la suite de leurs auditions au Congrès de manque de fermeté face à des débordements antisémites sur leur campus. La présidente de l'université new-yorkaise, elle, avait été auditionnée en avril dernier, accusée, elle aussi, de laisser cours à l'antisémitisme. Certains donateurs importants ont ainsi affirmé qu'elle n'avait pas fait assez pour protéger les étudiants juifs sur le campus. Minouch Shafik s'était également mise à dos les étudiants et professeurs en faisant intervenir à deux reprises la police. Dans sa lettre à la communauté de Columbia, elle avoue que cette période a eu des conséquences considérables pour sa famille. À trois semaines de la rentrée universitaire, qui s'annonce tout aussi agitée que le printemps, avec le cap des 40 000 morts franchis à Gaza, Minouch Shafik est remplacée par une présidente par intérim. Elle devrait repartir à Londres, d'où elle avait été recrutée pour son profil international. Sa démission rappelle la lourde tâche des présidents d'université aux États-Unis, faire coïncider la sécurité des étudiants, la liberté d'expression et la liberté académique.
Merci beaucoup, Abla Jounaïdi.
Et toujours dans l'actualité américaine, une russo-américaine a été condamnée à 12 ans de colonie pénitentiaire par un tribunal de la région de Yekaterinbourg en Russie.
Âgée de 33 ans, domiciliée à Los Angeles, Xenia Karelina a été reconnue coupable de trahison pour avoir fait un don de $52 à une fondation ukrainienne en février 2022 depuis les États-Unis. À Moscou, la correspondance de Jean-Didier Revoin.
Difficile de croire que Xenia Karelina s'imaginait être condamnée à 12 ans de colonie pénitentiaire pour trahison au moment où, en février 2022 à Los Angeles, elle a fait un don de $52 à une organisation ukrainienne. C'est pourtant ce qui est arrivé à cette russo-américaine de 33 ans, dont on a appris qu'elle avait été arrêtée alors qu'elle rendait visite à sa famille à Yekaterinbourg. La justice russe l'a reconnue coupable aujourd'hui de collecte de fonds pour les forces armées ukrainiennes. Si Xenia Karelina a reconnu les faits, elle entend néanmoins faire appel de sa condamnation. Mais au vu du climat actuel entre Moscou et Washington, du fait que les autorités russes considèrent qu'un citoyen russe double national reste russe avant tout et ne peut en aucun cas bénéficier d'une condamnation plus favorable que lui garantirait son autre nationalité, les chances de Xenia Karelina d'avoir gain de cause sont proches de zéro. Il lui reste néanmoins l'espoir de faire partie d'un prochain échange de prisonniers entre Moscou et l'Occident, similaire à celui qui avait permis le 1er août dernier à 16 prisonniers politiques russes d'être échangés contre des Russes détenus jusqu'alors dans plusieurs pays occidentaux. Jean-Didier Revoin, Moscou, RFI.
Et à propos du conflit entre l'Ukraine et la Russie, alors que l'incursion ukrainienne se poursuit en territoire russe, Moscou dit avoir repris un village aux forces de Kiev dans la région russe de Koursk, frontalière de l'Ukraine, où l'offensive a démarré la semaine dernière et où l'Ukraine annonce avoir mis en place une administration militaire. Le Kremlin indique aussi que des troupes supplémentaires vont être envoyées dans une autre région frontalière attaquée par l'Ukraine, celle de Belgorod.
La crainte d'un embrasement est toujours vive dans les pays du Proche-Orient.
Au Liban, par exemple, les craintes d'un conflit généralisé se sont amplifiées horrifiée depuis la mort du chef militaire du Hezbollah, Fouad Chokor, dans un raid israélien le 30 juillet, et la promesse du parti de Hassan Nasrallah de riposter à cette frappe meurtrière. Il faut dire que les échanges de tirs à la frontière entre Israël et le Liban se poursuivent. Le Hezbollah a annoncé la mort de deux de ses combattants dans des frappes israéliennes. Le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, se rend justement à Beyrouth aujourd'hui pour tenter d'éviter une escalade du conflit. En attendant, la population libanaise, elle, vit dans l'angoisse d'un embrasement généralisé. Correspondance à Beyrouth de Paul Khalife.
Toute appartenance politique et confessionnelle confondue, qu'il soit du sud ou du nord, du littoral ou de la plaine de la Beka, les Libanais vivent dans l'angoisse d'un élargissement du conflit entre Israël et le Hezbollah. La peur est entretenue par les discours belliqueux des belligérants et par les puissants bangs provoqués par le franchissement du mur du son par les avions israéliens au-dessus de Beyrouth et des autres régions libanaises, une mesure d'intimidation qui se répète fréquemment depuis 3 semaines. L'inquiétude est surtout palpable dans la banlieue sud de Beyrouth, à majorité chiite. Ce fief du Hezbollah, qui s'étend sur près de 10 km² et où vivent ordinairement près de 700 000 personnes, est aujourd'hui une ville fantôme. Les rues, d'habitude encombrées, sont désertes et certains commerces sont fermés. Le Hezbollah a évacué les bâtiments occupés par ses institutions sociales et administratives, ainsi que les sièges de sa radio et de sa télévision. Des milliers de familles chiites de la banlieue sud ont quitté leur domicile pour trouver refuge dans d'autres régions du Liban, y compris au Mont Liban à majorité chrétienne, où les prix des loyers ont explosé depuis début août. Paul Khalife, Beyrouth. RFI.
Et dans ce contexte, on vient de l'apprendre, le chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a annoncé dans un discours devant le Parlement turc qu'il allait se rendre à Gaza.
Gaza où l'armée israélienne poursuit ses opérations.
La défense civile palestinienne fait état de bombardements dans le nord, le centre et le sud de l'enclave et la barre symbolique des 40 000 morts à Gaza depuis le 7 octobre vient d'être dépassée selon un dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas. Sur le plan diplomatique, les discussions pour un cessez-le-feu dans l'enclave ont débuté aujourd'hui à Doha selon une source proche des négociations. Elles se tiennent en présence de représentants israéliens et des pays qui travaillent depuis des mois à cette médiation, parmi lesquels le Qatar, l'Égypte et les États-Unis. Il n'y a plus d'excuses pour retarder une trêve dans la bande de Gaza, avait d'ailleurs déclaré le locataire de la Maison-Blanche, Joe Biden, la semaine dernière, en appelant à la réunion de ce jeudi. Mais de quels moyens de pression les Américains disposent-ils pour se faire entendre de leur allié israélien, alors qu'à Washington, on se refuse à limiter les ventes d'armes à l'État hébreu et qu'un nouvel accord pour un montant de 20 milliards de dollars a été annoncé hier. Explication de Célia Belin, spécialiste des États-Unis au Conseil européen pour les relations internationales.
Le soutien militaire à Israël de la part des États-Unis, c'est une affaire qui date de plusieurs décennies et qui a un sens émotionnel de proximité démocratique avec l'État d'Israël, considéré comme l'État démocratique de la région avec lequel les Américains peuvent travailler. Mais c'est aussi un sens stratégique. Et donc, armer ce pays et lui apporter une aide militaire pour que ce pays puisse se défendre contre notamment l'Iran, c'est aussi la garantie d'une forme de ce qui était considéré comme un équilibre au Moyen-Orient où les États-Unis finalement étaient garants de la sécurité d'Israël en leur fournissant cette aide militaire. Et ça, ce calcul stratégique n'a pas changé, malgré des désaccords sur la gestion de la guerre à Gaza, une inquiétude très profonde vis-à-vis de l'énormité des victimes collatérales et civiles dans cette guerre. Tout ça ne remet pas en cause un soutien américain stratégique à Israël parce qu'il y a des intérêts qui sont d'un autre ordre.
Des propos recueillis par Nicolas Falaise.
Merci Sophie Pouzrat, c'était votre journal.
Le journal d'Haïti et des Amériques sur RFI.
Et c'est la troisième dirigeante d'une université de l'Ivy League. Le réseau des grandes universités américaines a démissionné en quelques mois. Nemat Shafik, la présidente de l'université new-yorkaise de Columbia, a remis sa démission hier. En cause, sa gestion du campus et notamment des manifestations pro-palestiniennes qui s'y sont tenues au printemps dernier. Et la presse américaine s'étonne du timing de cette décision, Marine Lebeg.
Oui, Florence, cette démission est inattendue, assure le New York Times, car elle intervient à peine 3 semaines avant la reprise des cours. Une fin soudaine, mais aussi un mandat très bref, souligne le quotidien. Il a duré à peine un an, ce qui en fait l'un des plus courts de l'histoire de Colombia. Ça rappelle à quel point les manifestations pro-palestiniennes ont profondément secoué l'université, analyse le New York Times, et la difficulté de diriger des campus bouleversés tout en équilibrant la sécurité des étudiants, la liberté d'expression et la liberté académique. Car pendant les manifestations du printemps dernier, Nemat Shafik, surnommé Minouche, a demandé deux fois à la police d'intervenir pour disperser les militants pro-palestiniens. Des professeurs lui avaient alors reproché d'avoir violé les droits des étudiants, rappelle le Washington Post, tandis que le Congrès américain ouvrait une enquête sur, je cite, « l'échec à protéger les étudiants juifs ». Face à ces demandes contradictoires, l'année a été difficile pour Minouche, a confié le doyen de l'école de journalisme de Columbia, Washington Post.
Et Marine, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de la revue de presse.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Et on retrouve Franz Duval, rédacteur en chef du journal Le Nouvelliste, en ligne avec nous de Port-au-Prince. Bonjour Franz. Les autorités haïtiennes n'enverront pas de représentants à la cérémonie d'investiture de Luis Abinader, le président de la République dominicaine, qui est le pays voisin d'Haïti. Et vous revenez sur les raisons de cette absence.
Bonjour Florence. Effectivement, les autorités haïtiennes, le président du Conseil de transition, le premier ministre Gary Conny, le ministre des Affaires étrangères ne vont pas faire le déplacement. Haïti sera représenté par la chargée d'affaires qui est en poste en République dominicaine à l'investiture du président Abinader. Les autorités haïtiennes ne peuvent pas y aller parce que le trafic aérien est suspendu avec la République dominicaine depuis près d'une année. Les Dominicains ont proposé de donner un privilège aux autorités haïtiennes pour qu'ils y aillent, mais ils ont décliné disant qu'on veut la réouverture totale des relations aériennes entre les deux pays, ce que la Dominicanie et la République dominicaine ne semblent pas vouloir faire pour le moment.
Franz, comme tous les ans, et malgré les troubles que connaît Haïti, le festival littéraire Livre en folie, co-organisé par votre journal, s'ouvre aujourd'hui. 30e édition. J'invite évidemment les auditeurs à aller voir sur votre site le programme. Dans votre éditorial, vous revenez sur un des livres présentés, La tragédie des biens communs en Haïti. De quoi s'agit-il ?
C'est tout ce qui est pour tout le monde. C'est la sécurité, c'est l'eau, c'est aussi l'éducation, c'est la santé. Tout ce qui aurait dû être partagé, tout ce qui est bien public en Haïti, eh bien, il y a une tragédie parce que c'est très mal partagé, mais surtout c'est très mal constitué. Il y en a qui récoltent beaucoup, qui captent, parce que ce sont les mots de l'auteur. C'est la captation des biens publics par une petite minorité et la grande majorité des Haïtiens n'arrivent pas à jouir de ce qui est censé être les biens publics, ce que tout le monde devait avoir. Il a aussi comparé la situation d'Haïti avec la situation des pays avoisinants, la République dominicaine, la Jamaïque, Cuba. Il y a cela un siècle, ces pays étaient quasiment à égalité. Aujourd'hui, Haïti est dans une situation totalement déplorable. Cela revient pour beaucoup aux autorités haïtiennes qui ont capté les biens publics et à la mauvaise répartition de ces biens publics.
Merci beaucoup. On peut préciser que tous les livres présentés au festival Livre en folie ainsi que le programme sont accessibles à la vente sur le site du festival jusqu'à dimanche prochain. Merci Franz Duval, vous étiez en direct d'Haïti pour RFI. Et on reste justement en Haïti avec vous Marine Lebec. Vous avez feuilleté la presse du pays et vous êtes tombée sur cet article d'Aïe Popost, qui résume tout ce qui est interdit aux soldats kényans déployés en Haïti.
Oui Florence, les soldats kényans ont interdiction de parler à la presse, de consommer de l'alcool, de s'acheter de la nourriture en dehors de la base ou même de quitter la base pour des raisons personnelles. Ils n'ont d'ailleurs aucun contact avec des personnes extérieures, rapporte Aïe Popost. Les responsables de la mission semblent vouloir éviter les scandales survenu lors de la dernière mission des Nations Unies, écrit le média. Il rappelle que lors de la dernière intervention des Nations Unies en Haïti, entre 2004 et 2017, les soldats avaient certes pacifié provisoirement le pays, mais ils y avaient aussi introduit le choléra, tuant plus de 10 000 citoyens. Ils avaient également été impliqués dans des dizaines de cas de violations des droits humains et de violences sexuelles.
On part dans un instant au Mexique.
De l'eau qui...
RFI Midi.
Et au Mexique, un homme accusé d'une tentative de féminicide a été acquitté et remis en liberté hier, avant que la décision ne soit annulée par un juge d'autorité supérieure, une juge même, il faut le préciser. Il reste donc en prison et l'affaire fait la une de toute la presse mexicaine, Marine.
Exactement, il faut dire que cette tentative de féminicide avait secoué l'opinion mexicaine en 2019, Florence. À l'époque, la victime présumée, Maria Elena Rios, avait 26 ans, se souvient El País, quand un inconnu est entré chez elle et lui a jeté de l'acide acide sur le visage et sur la moitié du corps. La jeune femme est restée 5 mois à l'hôpital. Finalement, 2 hommes ont été arrêtés, rappelle El Sol des Mexico. Juan Antonio Vera Carrizal, ex-député et ancien compagnon de la victime, a été désigné comme étant le cerveau de l'attentat. Mais un juge local a décidé de l'acquitter au motif que le ministère public n'avait pas fourni de preuves contre lui, détaille El Sol des Mexico. La victime Maria Elena Rios a considéré la décision comme un triomphe de la corruption. Décision qui a aussitôt été annulée par une juge d'une instance supérieure. Cette même juge a également suspendu le magistrat local qui fait désormais l'objet d'une enquête pour corruption présumée, écrit La Razón.
Au Chili, après une longue période de sécheresse et très peu de précipitations ces dernières années, des pluies presque divines tombent depuis le début de l'hiver sur le centre du pays. Cela faisait notamment 22 ans qu'il n'avait pas autant plu en juin sur Santiago et sa région. À 70 km au sud de la capitale, l'exemple de la lagune d'Achuelo est frappant. Déclarée complètement sèche en 2018, elle est aujourd'hui presque remplie. La faune et la flore rejaillissent et les riverains retrouvent des paysages verdoyants. Alors pour préserver cette nature fraîchement retrouvée, certains défendent un projet de conservation de la lagune. C'est un reportage de notre correspondant à Santiago, Naila de Rouané.
De l'eau qui ruisselle des montagnes alentours. C'est un son que Jimena Romero n'avait pas entendu depuis longtemps.
C'est un paysage que nous avions perdu. C'était complètement désertique ici. Il y avait des animaux morts et abandonnés dans la lagune. Et les oiseaux, c'était des rapaces, ces carnivores qui mangent les carcasses d'animaux morts.
Mais grâce aux pluies de ces derniers mois, la lagune, qui s'étend sur environ 12 km², a récupéré près de 70% de son eau.
Du jour au lendemain, on se réveille et on voit que le miroir d'eau de la lagune est revenu. C'était comme dans un rêve presque irréel. Personne n'imaginait que la lagune se régénérerait. Ça a été très émouvant.
Avec le retour de l'eau, c'est aussi la vie qui s'est réactivée dans l'ensemble du bassin versant, poursuit Jimena, qui en plus de vivre ici, travaille comme coordinatrice d'éducation dans la réserve naturelle Altos de Cantillana, qui borde la lagune.
Jusqu'à maintenant, on a enregistré 72 espèces d'oiseaux qui sont revenues. On a aussi vu à nouveau des amphibiens, alors que c'est l'une des espèces les plus menacées par le changement climatique.
Mais même si l'eau est revenue, l'ensemble de l'écosystème, lui, reste fragile car il est soumis à diverses pressions exercées sur les ressources hydriques.
Dans le village où nous sommes actuellement, c'est là où je vis. Avant, il y avait 500 personnes. Aujourd'hui, nous sommes plus de 2000.
En plus d'un usage domestique de l'eau toujours plus excessif, il y a aussi les mauvaises pratiques.
On a été habitués à planter des espèces qui ne correspondent pas au climat que nous avons.
Carolina habite au bord de la lagune. Elle est défenseur de l'environnement.
On essayait d'imiter les beaux jardins londoniens avec de belles pelouses, mais là-bas, il y a du brouillard presque toute l'année, alors qu'ici, on a 6 mois de plein soleil avec 30 degrés. Bien entendu, ça génère une pression hydrique dans un endroit touché par le changement climatique.
L'agriculture aussi a sa part de responsabilité, explique
Quand l'agroalimentaire est arrivé, avec notamment les cerisiers qui consomment beaucoup d'eau, c'est là que le déséquilibre s'est produit. Ils se sont installés sur de grandes surfaces et leurs plantations n'étaient pas adaptées au territoire. Ils ont aussi installé des puits profonds pour extraire l'eau.
Tous ces excès ont conduit à l'assèchement de la lagune. Et face à l'absence presque totale de régulation, une partie des habitants souhaite alors déclarer l'endroit comme zone humide urbaine, un statut qui donnerait plus de pouvoir à la mairie pour contrôler et protéger le territoire, ainsi qu'aux habitants pour prendre des décisions collégialement. Toutefois, ce projet génère des inquiétudes chez certains habitants.
C'est bien pour l'écologie, mais ça implique aussi beaucoup de restrictions.
Humberto Donaire, un petit agriculteur, a dû changer de profession quand son puits s'est asséché il y a plusieurs années déjà. Il aimerait pouvoir reprendre son activité, mais craint que le projet de conservation de la lagune l'en empêche.
Il faut voir les conditions. En quoi ça va m'être bénéfique si je ne peux plus utiliser l'eau de la lagune? Si je ne peux utiliser ni mon puits, ni l'eau de la lagune, je ne vais pas pouvoir recommencer à cultiver. Et puis, ce ne serait pas un usage excessif de l'eau, ce serait simplement utiliser ce dont on a besoin.
Mais c'est aussi ce que pense Jimena, qui défend la création d'un statut protecteur pour la lagune.
Je pense qu'il est très important de conserver un sol agricole et maintenir la petite agriculture locale, mais que cela se fasse en fonction de l'eau disponible afin de pouvoir subsister.
Pour beaucoup d'habitants, la résurrection de la lagune d'Aculeo est comme une deuxième chance offerte par la nature pour ne pas répéter cette fois-ci les erreurs commises par le passé. Naïla de Rouen et Santiago, RFI.
Il faut dire qu'en plus, le répit dont le Chili a bénéficié cette année grâce aux fortes pluies qui sont tombées pourrait être de courte durée, car déjà, le phénomène climatique La Niña, qui entraîne une baisse importante des précipitations, est en train de s'installer dans le pays. En Amérique centrale, la tempête tropicale Ernesto a touché Porto Rico hier et si pour l'instant aucune victime n'est recensée, elle a plongé l'île dans l'obscurité selon la presse locale marine.
Oui, plus d'un demi-million de foyers se sont retrouvés sans électricité hier, peut-on lire dans El Nuevo Día. Pas de lumière, pas de service d'eau non plus, puisque ça fonctionne avec l'électricité, rapporte le maire d'un petit village dans le centre de l'île, Cayey, aux médias Primera Hora. Sur des vidéos diffusées sur le site web, on voit des hommes œuvrer, machette à la main, pour tenter de dégager la route recouverte d'arbres tombés. Certaines zones de l'île sont toujours inaccessibles, explique le maire, à cause des arbres et surtout des crues provoquées par la pluie qui bloquent le passage. Les habitants du village s'organisent pour distribuer de l'eau en bouteille et de la nourriture aux personnes isolées par la tempête, nous apprend Primera Hora.
Merci Marine Lebeg pour cette revue de presse. C'était une figure du cinéma américain indépendant. Jenna Rollands est morte ce mercredi à l'âge de 94 ans. Elle s'était imposée dans une soixantaine de rôles éclectiques sous la direction de Woody Allen, de Jim Jarmusch, mais surtout de son mari, John Cassavetes, Elisabeth Le Carré.
Hey Frank, what are you gonna do? Shoot a 6-year-old Puerto Rican kid on the street? You don't know nothing. He don't even speak English.
De son mari, elle disait qu'il lui avait écrit les plus beaux rôles dont une actrice puisse rêver. De fait, en 7 films, Cassavetes a porté au pinacle les talents de sa muse et compagne. Beauté blonde et voix de fumeuse, Jenna Rollands incarnait des femmes fortes, volontaires et décalées. Call Girl dans Faces ou ménagère au bord de la folie dans Une femme sous influence. Née en 1930, Virginia Catherine Rollands se destine au théâtre. Mais la rencontre avec un jeune acteur-réalisateur ambitieux va changer la donne. Cassavetes refuse les diktats des studios hollywoodiens et impose par économie des tournages à domicile. J'ai l'impression d'avoir vécu toute ma vie avec 40 personnes à la maison, dira-t-elle plus tard. En 1989, à la mort de son époux, Rollands vient de tourner avec Woody Allen. Elle continuera à être très demandée pour le grand écran et les séries télévisées. En 2015, Jenna Rollands avait reçu un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière.
Elisabeth Le Carré.
RFI Midi.
Et c'est l'heure du journal des Outre-mer avec nos confrères d'Outre-mer La Première. Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour.
Et après plus d'un mois d'arrêt, les navettes maritimes sont enfin de retour entre le nord et le sud de l'immense baie de Fort-de-France.
Une baie dont on peut évidemment faire le tour par la route, mais le trajet est évidemment beaucoup plus direct par la mer et garanti sans embouteillage. Bref, les clients sont contents et les commerçants des trois îlets, eux, juste en face de Fort-de-France, sont ravis. Reportage Bianca Caretto.
Les navettes maritimes à quai, cela faisait longtemps que ça n'était pas arrivé.
Franchement, ça fait plaisir que la reprise soit faite mi-août, mais c'est bien.
Les commerçants des trois îles,
Oreo, s'il vous plaît.
Comme Monica, retrouve le sourire.
Le juillet a été calme, mais après août, bon, on fait avec ça. Il y a un peu plus de monde, mais les navettes, ça fait un petit plus en plus.
Vous êtes bien contente? Oui, parce que là, sans les navettes, c'est la catastrophe.
Jocelyne, vendeuse de glace, fait sa mise en place. Aujourd'hui, elle a doublé sa capacité d'accueil.
On va faire les mêmes choses, mais en double. On va doubler parce que la navette, c'est super.
Il faut dire que les navettes maritimes amènent une nouvelle clientèle qui fait les bons comptes des commerçants.
C'est des gens qui viennent par exemple du nord de la Martinique, qui se garent à Fort-de-France, qui prennent la navette pour passer une journée aux trois îlets. Et cette clientèle, on ne l'a plus du tout.
C'est des gens qui dépensent pas mal,
oui.
En général.
Oui, plus que les touristes.
Alors, ces derniers mois n'ont pas été simples pour certains. C'est le cas de Lynn.
On n'a rien fait, voilà. Le manque de clients, voilà.
Ils espèrent maintenant qu'une chose, que ce retour s'inscrive dans le temps.
Avec plaisir.
On reste dans le domaine maritime avec les pêcheurs de Sainte-Anne dans l'extrême sud de la Martinique. Eux tirent la sonnette d'alarme. Ils sont en effet victimes, non d'une pénurie de poissons, mais de bateaux. Leurs embarcations se retrouvant parfois dans les îles environnantes, comme le raconte le président de leur association, Guy-Marie Joseph, au micro de La Première.
Nous avons constaté plusieurs vols en ce moment. Ça devient très récurrent. Et des vols entre gens, hein, à savoir moteur et bateau qui est en réparation, le moteur qui disparaît, et des bateaux qu'on a pu retrouver à Sainte-Lucie, et un autre qu'on a été retrouvé à Saint-Vincent. Et ma foi, ça devient très récurrent dans le coin.
Les marins pêcheurs ont porté plainte?
Oui, tout à fait. Ils ont été à la gendarmerie pour pouvoir porter plainte. Hein. Et d'autres qui sont passés par la douane pour pouvoir traverser, pour aller à Saint-Vincent, pour retrouver le bateau. Et ça coûte cher, hein, d'aller chercher son propre matériel chez le voisin à côté. Et il va falloir qu'on puisse statuer sur ça, à savoir fermer le port, parce qu'il y a un peu trop de trafic en tout genre ici dans le port du Cap-Chevalier.
Bon après-midi, à demain.
Merci Benoît Ferrand, on vous retrouve demain. Merci pour ce journal des Outre-mer. C'est la fin de RFI Midi, on va se retrouver dans quelques instants. Mais d'abord la musique avec Flavia Coelho, Mama Santa.
Duras penas, na ladeira da ilusão, viu? Um dever, questão de honra, sobreviver. Pra que perder a razão? Eu me prometi nunca mais. Adicionei ritos e lendas, neutralizei marcas e fendas, defini um mundo novo à base de oração. É. Pago o preço, deambulação mental, viu? Apagar velhos costumes, me desfazer. Pretendo me perdoar, quem sabe poder ser feliz. Cicatrizar marcas feridas, eliminar dores sofridas, definir um novo mundo à base de oração. É. Oh, oh, Mama Santa, Aparecida da Providência.
Vamos.
Flavia Coelho, Mama Santa, pour clore ces deux heures d'RFI Midi. C'est la fin de cette tranche. Merci de votre fidélité à la Radio du Monde. Merci aux équipes rédactionnelles d'RFI, à Benoît Almeras pour la coordination. Restez à l'écoute. Bientôt la suite des programmes sur la Radio du Monde.
Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint.
En cette semaine où l'on célèbre les 80 ans de la libération de Paris, je vous propose de réécouter Robert Birenbaum, 98 ans à ce jour, l'un des deux derniers survivants de la Seconde Guerre mondiale. Il n'a rien oublié de cette époque, comme il en témoigne dans son livre intitulé « 16 ans, résistant ».
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Vendredi, à partir de 13h30 TU.
RFI.
En hommage à nos reporters assassinés le 2 novembre 2013 à Kidal, RFI lance la 11e édition de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Vous résidez en Afrique francophone, vous êtes jeune technicien ou journaliste radio avec au moins 2 ans d'expérience et vous avez moins de 35 ans, vous avez jusqu'au 25 août pour postuler sur RFI.fr. 10 candidats journalistes et 10 candidats techniciens se verront offrir une formation à Cotonou en octobre. Un jury sélectionnera 2 d'entre eux pour un stage à Paris avec l'INA et l'école de journalisme de Sciences Po.